Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Martha, c'est sur 48 FM, avec moi il y a Ludo, salut Ludo.
Salut Ben, salut à tous.
Il fallait quand même qu'on contextualise un tout petit peu ce qui va se passer là pour nos auditeurs et auditrices dans
et
quelques minutes.
Quoi donc Ben, dis-moi.
Eh bien écoute, on a fait une super résidence avec des jeunes espagnols, polonais, français et allemands. Là, on a passé quelques jours avec elles et eux pour faire des petits reportages du côté du pont de Montvert, pour avoir plein d'invités, et donc on va faire un plateau en direct. Alors ça va étonner tout le monde, tu sais pourquoi?
Non, je ne sais pas, mais tu vas me dire. Enfin, si, je sais.
Oui, mais tu sais.
Ah, non, mais ça, c'est sinon, tu ne me répondras pas.
Parce que ça va parler franglish.
Ah, très bien.
Voilà, on va parler français et anglais sur ce plateau. En fait, il y aura des fois des traductions, des fois pas. Donc, accrochez-vous. Hein, ça vous fait des bonnes petites leçons gratos sur Radio Martha, c'est 48 FM. Comment c'était pour toi, Ludo, cette semaine?
Excellent. Beau temps, belle rencontre, belle personne et beau travail qu'on va vous retransmettre d'ici à quelques minutes. Et c'est surtout ça qui est essentiel pour nous.
Yes, au programme, il y aurait un déportage des micro-trottoirs et en invité, il y aura Stéphane Morin qui est maire du Pont de Montvert, président du Parc National des Cévennes et directeur de l'école primaire de Florac. Cyril Jamit qui gère le théâtre clandestin et la salle de spectacle qui s'appelle Le Labo. Et Louise Pontel qui est naturaliste. Ça nous prévoit quand même un beau petit programme. Hein. Ils ont bien bossé nos jeunes. Hein.
Et tous les invités sont ici, viennent d'arriver, donc on va bientôt pouvoir commencer.
On est tout bon, on passe un petit morceau, retrouvez-nous dans quelques secondes sur Radio Martas et une petite radio, là je sais plus où, c'est où toi?
Sur Mende.
Sur Mende.
Langogne. Et Marvejol aussi.
Ah ouais, t'as trois fréquences à chaque fois.
Ouais,
j'oublie.
Écoute,
Allez, c'est le moment radiophonique à toutes et tous, à tout de suite, ciao.
Have you ever tried Kishloren Yabuachnik?
Tortilla de patatas? Do you know where they are from? You will enjoy them at Le Jardin du Temple the Monday 25th, with a live show at 16 and dinner at 6. Don't hesitate to participate in the event and bring whoever and whatever you want.
Avez-vous déjà essayé une Kishloren
Yabuachnik?
Tortilla de patatas?
Savez-vous d'où ils viennent? Vous pourrez les découvrir au Jardin du Temple, au pont de Montvert, lundi 25 août, avec un live show à 16h et un dîner à 18h. N'hésitez pas à participer en venant avec qui vous voulez et en apportant ce que vous voulez.
Have you ever tried
Kishloren Yabuachnik?
Tortilla de patatas? Do you know where they are from? You will enjoy them at Le Jardin du Temple the Monday 25th, with a live show at 16 and dinner at 6. Don't hesitate to participate in the event and bring whoever and whatever you want.
Avez-vous déjà essayé une Kishloren
Yabuachnik?
Tortilla de patatas?
Savez-vous d'où ils viennent? Vous pourrez les découvrir au Jardin du Temple, au pont de Montvert, lundi 25 août, avec un live show à 16h et un dîner à 18h. N'hésitez pas à participer en venant avec qui vous voulez et en apportant ce que vous voulez.
National Hawks.
Marlena.
Luna.
Dominica.
Xavi.
Hola.
Salma.
From Rep Association. Pont de Montvert.
Good afternoon, world. Or should I say, buenas tardes, bonsoir, or dzień dobry. From the first beat to the last word, this is bringing you the soundtrack of your day.
My name is Xavi, and together with Luna, we are the animators of this program. We have the pleasure to be here with two journalists, Ola and Salma. On technical side, we have Marlena and Dominica here with us.
Having presented the whole team, we're Spanish, Polish, and French volunteers coming from the REV Association in Lozère. Before we get on with the show, we would like to invite you to our international dinner. Dishes from all our countries will be served, and we kindly invite you to join us in Jardin du Temple du Montvert today at 6 p.m. We hope to see you there.
Let's not forget about our special guest, Eloise Pantel. She is a nature animator for La Ligue de Protection de Oiseau.
Hello. Moving forward, Ola and Salma will interview our special guest.
So, hello, Eloise. Nice to have you here.
My first question for you is about your job, and I would like to know more, what do you do in your job?
Okay, so like, what's your name?
Savi.
Savi said, I am an environment educator for an organization that's called LPO, so it means Ligue pour la Protection des Oiseaux. And I mainly go to schools and I talk about birds, insects, amphibians, everything that's related to nature, and I try to teach the students to recognize all the biodiversity and try to protect it.
Okay.
That sounds so interesting. Could you tell us where your passion for birds came from and like how you landed this job?
Okay, it's a long story, but I will try to make it short. So basically I have a part of my family that really is knows a lot of things, and he tried to teach me this, and I did a bit of my studies in trying to study this part, but I was not so into it. But after my studies, I actually worked in a natural reserve, and it was really, really loaded in birds that came from all part of France. And so I really, really enjoyed it, and it was at this time that I understand, like, I like it, I will do that. So after this job, I actually came back in Lozère, because I come from Lozère. And when I came back, I really shortly after that, I volunteered for the association I now worked for. And actually, it took up maybe like 1 year and a half to find enough money to create my own job. And after that, once we find everything we needed, all the partners, all the financial thing, we succeeded in actually making it alive. Like, I don't know if it's clear enough.
yeah, that's clear. Thank you. So I'm really curious about how does your a typical day looks like, or a typical week?
Okay, I do not have a typical day because it's always different. But I have mainly two jobs, let's say. So I could, the first possibility is I'm in a school and I'm with a class teaching about environment, nature, biodiversity to little kids. That's the first part. And the second part is I'm working at home, and I prepare my animation, do a lot of paperwork, not really fun work, but I have to do it. So yeah, it's basically my two main tasks.
Nice.
Thank you. I'm intrigued. Could you share the most memorable or like bizarre situation you've ever experienced at your job?
Okay. I could talk about this weekend. It was more memorable than bizarre, but it was actually the first time that I had to do an animation with another person, and the other person was a saxophone player. Do you know? So it was basically trying to teach about nature, but also making people enjoy with another media that was music, and it really worked really well, and it was so beautiful to have someone playing music and being able to enjoy the landscape at the same time. It was really perfect.
That sounds amazing.
So what would you like to tell people or to let them know about your job, as it is not a very common it's not a very common job to hear someone working as to sensibilize about birds and everything. So what would you like to let people know about that?
Good question. I would say it needs a lot of research. Mm-hmm. Like I have to be able to talk about a lot of things about nature, and it's kind of a lot of domain, I don't know how to say it, field.
Exactly, yeah.
And actually I have to know about insects, I have to know about amphibians, I need to know about trees and also plants and everything. So it takes a lot of time to learn by myself. I have to do it by myself because there is no study to do that. There is no formation or stuff like this. So I have to do it by myself, and it takes really a long time. Mm. I love it, but it needs to do it. I need to do it by myself. Yeah.
Okay, that sounds so interesting. And I think that probably many of our listeners would like to have your job. And I can't wait to hear more, but now it's time for an intermission.
So yes, Xavi said now we will be learning about a local artisan shop. Last Tuesday we had the pleasure to talk to the shop owner, Regis. So okay, what's your name and what's your job?
C'est quoi votre nom et c'est quoi votre travail?
Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Régis Moline, donc j'habite à Racoul, un petit hameau à côté du pont de Montvert, et donc dans l'association des ateliers du Mont-Lozère, je suis l'éleveur d'alpaga.
What do you think this shop is important for the local community?
Alors pourquoi vous pensez que ce shop est important pour la communauté locale?
Je pense que ce genre de boutique est important pour le pays parce que c'est un résumé de tout ce qui se fait artisanalement et localement sur le territoire. Et donc un des buts de notre association, c'est de mettre en avant les acteurs, les artisans, les artistes aussi du coin, de la commune et du département.
How many people come regularly to the shop?
Combien de gens viennent régulièrement dans le shop?
Bah, c'est quand même assez aléatoire. Donc, on a ouvert en juin et on ouvrira jusqu'au 1er novembre cette année. Et en fait, le plus gros de la saison, c'est bien juillet-août. Et en juin, et on suppose que septembre-octobre et début novembre, ça va être plus calme, quoi. Voilà.
What are the responsibilities when taking care of llamas?
C'est quoi les responsabilités en prenant soin des alpagas?
Les responsabilités, c'est les mêmes que tout type d'élevage. Hein, c'est d'être sûr que les animaux soient en bonne santé, qu'ils soient bien nourris, qu'ils aient pas de parasites, les protéger des prédateurs. Voilà, un peu comme mes enfants, quoi.
Donc, oh oui, ce que vous produisez avec les llamas et que vous proposez dans le magasin.
Ok, donc l'élevage d'alpaga est exclusivement destiné à la production de laine. Et donc avec cette laine, je suis dans un circuit de production et de création qui fonctionne comme en mode coopérative. Et donc là, avec toute ma production de fibres brutes, je produis différents articles, donc des bonnets, des écharpes, des chaussettes, des gants, des pulls. Voilà, plein d'articles prêts à porter et aussi de la laine à tricoter. Et sur cette laine à tricoter, je fais de la teinture végétale dessus. Alors moi, ce que je fais moi-même, c'est les teintures végétales sur les articles. Et après, récemment, donc l'hiver dernier, je me suis mis à tricoter. Donc j'ai appris à tricoter, mais encore, je ne mets pas mes créations sur mon stand parce que c'est encore pas très précis, on va dire.
How did you start with this job?
Comment vous avez commencé avec ce travail ou passion?
Donc du coup, moi, à la base, je ne suis pas du tout prédestiné à être agriculteur et éleveur. Sauf que, en fait, je suis quand même fils d'une famille d'agriculteurs. Et quand mes parents ont commencé à parler de prendre leur retraite et que mon frère et ma sœur n'étaient pas intéressés pour reprendre la ferme, je me suis posé la question. Eux, ils élevaient des vaches pour de la viande. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout d'élever des animaux pour les amener à l'abattoir. Et donc, j'ai commencé à élever des brebis pour valoriser la laine. Et dans mon cursus d'installation, j'ai rencontré des éleveurs qui avaient des alpagas. Et j'ai eu un coup de foudre pour ces animaux. Et là, j'ai dit, non, en fait, les brebis, ce n'est pas pour moi, ça sera les alpagas. Et depuis, voilà, je bosse avec les alpagas. Et je me régale.
So, alors, la dernière question, c'est quand est-ce que vous êtes ouvert et quels sont les autres produits que vous vendez dans votre magasin?
Donc du coup, l'association des ateliers du Mont-Lozère, elle a été créée par 5 personnes de la commune. Donc Antoine Anezo, qui est le tourneur sur bois de l'équipe. Marie Kalberg, qui est l'éleveuse de chèvres Angora, Justine Viala, qui est la tisserande, Séverine Combe, maroquinière à Fraissinet de Lozère, et moi-même, donc l'éleveur d'alpaga. Et donc cette année, pour la boutique, pour la saison 2025, on a aussi deux invités, donc Mika, qui est le céramiste qui vient du Pompidou, et Maria, qui est la bijoutière qui vient de, à côté de Florac. Donc la boutique, elle est ouverte tous les jours en juillet-août, et après septembre-octobre, elle sera ouverte les mercredis et les week-ends. Et après, on ne sait pas trop, parce qu'on est toujours à la recherche d'un local pérenne, donc ça sera un peu en fonction des propositions qu'on trouvera sur le village, qui dira si on réouvre, quand et comment. Quoi.
Okay. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir accordé cette interview.
Merci à vous d'être venu nous rencontrer.
Merci.
I wish we had more people like Regis to take care of the local community, but now let's come back to our main guest, Eloise.
We can't wait to hear more from you. Could you tell us what role the birds play in the environment and in our daily lives?
Wow, that's a big question. So if I can answer quite simply, like in the environment, they are a part of a complex balance. Most of them are predators, so they will regulate some population of insects or let's say mice, and some of them are also like we would say primary consumers. That means they eat like plants. They are herbivore, je sais pas.
Herbivore,
perfect. and those will be the prey of others. So it's always a balance. We can see nature as a really complex balance, and birds are part of it. But if we take birds off of this balance, everything is like crawling down. And for us human, the birds' role is a bit different. They can be a very good help to regulate insects, like mosquitoes or the insects that we don't want in our garden or in our house. And I would also say that in my work it's kind of important because it's birds are quite easily to observe. So they can be a very good start when it comes to sensibilize about nature, because it's the first thing we can see, maybe like insects or plants, but for me it will be birds. But it's really like it's the first step you can make to learn about nature. It's just be in your garden and let's see what's in your garden. It's really close to humans, so we feel close to them also. So it can be a very good start for this. Yeah.
Nice. So you said that if we take the birds out of the cycle, the balance will fall down, and I'm curious to know what are those negative things that can happen, the side effects, and how can we address them?
Let's think about it just a bit. Like I think if you take it off of the cycle, a lot of insects will rose, and there will be like invasion, if we can say, and stuff like this, and it will, the whole cycle will be breakdown, because a lot of other animals eat birds. Birds eat birds, but also other animals eat birds. So a lot of food will be just disappearing, you know. So it's inevitable that other animals will disappear as well. So we already know that a lot of birds are disappearing. That's a fact, and that means a lot of other animals are disappearing as well. Mm-hmm. Yeah.
Thank you.
Is there anything that like we can do in our daily lives to help the birds?
Yes, you can. First, I would say is just learn about them. Like learn that they exist. Learn what species you have in your garden. There's not so much, and they are quite easily to identify. Just make sure you know they're here, and even if it's just in your garden, you can help them, like not putting any insecticides in them, pesticides, stuff like this. But you can also make sure they are welcome, so you know some of them eat like insects, so you can add in your garden some little things that you know insect needs to reproduce themselves, so it will become food for birds and stuff like this. There's many things to do. You can also add like a little nest things to welcome them, but at a more wild scale, as a human being, we can also make sure that all the environment they need are preserved.
Yeah. Thank you so much. And are there like any popular myths about birds that are common but aren't true?
Wow. Do you have any in mind?
That's what I want to know.
I don't have any in mind right now. But I know that at the very beginning, we didn't know where the birds were going. You know, when they migrate, we didn't know where they were going. So one of the hypotheses was they for the not swift, hirondelle, I don't know. I don't know. We'll call them swift, but it's not swift. But some scientists thought the birds were going under the ground, like in mud, stay there for the whole winter, and when winter, and when the spring is back, they will just crawl out of it, and we will see them again. But actually, no, they do not crawl into the mud. They'll just go over the sea, travel through Africa, and stay there, and come back. That's quite wild, actually.
Thank you.
Yeah, that's very interesting. And I'm actually curious about what is the reason for the fact that they're driven to travel all the time and not settle.
Okay. So all about birds that migrate.
Exactly.
Yeah, okay. Yeah. So we can see migration as a search for summer. Not flee. Like they do not run to flight, to fuir, comment tu dis?
To run away.
To run away from winter.
To escape winter.
To escape winter, but to look for summer, because they all need food, and food comes with a little bit of water and a lot of warmness, you know.
Okay.
So in the winter, there's no that. So they will always look for food. That's the only reason. Food and reproduction. So if there is food, there will be reproduction. If there is no food, there will not be reproduction. So the birds that migrate will just go in the place there will be food, and food for everyone, for every individual of this species, you know. So when some birds are coming from Africa to Russia or stuff like this, they know that there will be enough food there to reproduce and make sure that all the baby birds will grow and do the same again.
Oh, fascinating.
Yeah, it's quite migration is fascinating. Yeah. It's a wonderful phenomenon.
Well, if you would like to tell us more about, for example, the reasons of why how they sense that a place will be better for them, that would be very helpful.
Well, okay, let's try it.
Okay, well, whatever you can, just any information on that would be really helpful.
Okay, I saw in your question you were talking about the flyway.
Exactly.
Yeah.
Yes.
Okay. So if we only talk about France, but it's all in the world, like everywhere birds can migrate, and the flyway are kind of corridors through here in France. There's mainly three, let's say. So one is from all the Atlantic Ocean coasts.
Okay.
The other one is from northeast to southwest, just across France, and the third one is mainly through the Rhône River, you know, the big river that comes to Marseille, near Marseille. So these corridors, birds know them quite well, and it will offer enough wind to migrate, good winds to migrate, and they will also offer not so much mountains, even though some birds like to migrate through mountains, but everything will be there to make sure they will cross it efficiently. And also, the thing that's really important is they know there will be places in this corridor that they where they could stop, rest, and feed themselves. Yeah. So all of these conditions have to be present in this corridor. And yeah, I think it's a bit mixed up in my head, but I think
you did a good job.
Understandable?
Yeah, you explained
yeah.
it well.
Okay. Yeah. So here in Lozère, just to finish, we are not in those corridors,
okay.
but we can even though see some of migration, because there's like more smaller corridors that goes a bit everywhere in France actually, but there's three main corridors that I told about just a few minutes back here.
Thank you.
If you have other question, I can answer them, but right now it's a bit.
No, that was really good. Thank you.
So from what you're saying, birds are well known to be natural-born travelers. And do you think that they share similarities with human behaviors?
Yes, I think we can say so. Like some of them are really, they travel like on a long journey. They could go from Russia to South Africa, or they can go even from like Norway to South America this time, so they have to cross all the Atlantic Ocean, and I think we can say that like we can see similarity. And in seeing like some of us love to travel and love to, they have to know what's behind the next mountain and the next mountain and the next mountain, and some of them would like I'm good here, I will not go further. So yeah, some birds will just try to find what they need in a very small area, and some of them will need to travel all the world to make sure that everything is okay in their life, you know.
Thank you.
Well, since you yourself work with birds, do you find that you identify with that, their spirit?
I would say I identify in both of what I just said, like I love being home, but every time I can, I will just go and try to discover a bit more, mostly friends, but if I can go anywhere else, I will go, yeah.
Perfect. Also, one last question is about the engagement in your local community and the way you are yourself engaged in your community through working with birds. And how would you advise younger people to take part of the growth of their own community?
I'm sorry, I did not get a question.
Yeah, so how do you advise young people to take part in the growth of their community?
Here in my own community?
Sure, yeah.
I would tell them to be a part of it. Anything they can do would be welcome, and in any field, like you can do anything, and we try to make it good, like you just did, like you did something, and today you are trying to make it alive, you know, and we will try to do that every time something is coming here. And I think Rev is really good for that. Like not every project works as well as you told me it worked, but every time we do something, we try to make sure that people here in Lozère are know about it, you know, and like radio is perfect for that. But we try to have also other media to make sure that everybody knows what's going on in Rev.
Okay, perfect. Thank you.
Well, I actually think we can all agree that this interview was super interesting.
Thank you.
First of all, thank you very much, Alois. We really appreciate you being here today. And actually, we still wanted to remind you all that you're invited to our international dinner in which we will serve all dishes from our countries in Jardin du Temple du Montbert today at 6 p.m.
Thank you very much for listening. We have sung our last note for today.
Now, go let birds inspire your week.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. De choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà.
You're listening to...
Vous êtes en train d'écouter...
Les Papillons Historiques.
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 Hi everybody, welcome! We are part of a radio project to help expand community radio on Lothair thanks to REP. We are really pleased to be here with you. In this table is sitting Alison.
Bonjour.
Laura.
Test.
Eloy.
Hola, hola, desde España.
Amaya, who is in the technique. And I'm Nadia. And we are here to talk about the community.
We've been investigating a little bit about Lothair environment and gathered information about Le Pont de Montvert. Let's listen to a micro-trottoir with citizens and tourists to see what they think about it.
What's one thing that you don't like about Pont de Montvert?
There's only one baker shop, and it's horrible. Yeah. You've got to wait for ages, 50 minutes, because of the people. There are too many people, and it's not comfortable.
What's your favorite season in Pont de Montvert?
L'été, hein, parce que. L'hiver ici fait froid. Hein?
Summer because it's cold in winter here. Us too, we are only here in summer. During winter we don't come here because it's a little bit dead, so we're rather in the south.
My favorite seasons are spring and autumn, because in summer there are too many people and it's not very well comfortable. Because the village is very small, as you can see, and it's a bit a problem.
What do you do here to make your day lots better?
Qu'est-ce qu'on fait? On va. Ben, il fait tellement chaud.
It's so hot that we've been going to the pool almost every day. We go swimming in the ponds nearby, and the kids are having a great time. They really enjoy it.
Les petits se régalent vraiment. Ils aiment beaucoup. Voilà.
Today in Historia Papillon, we are hosting the mayor of Pont de Montvert and the president of the National Park of Cévennes, Stéphane Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Et alors, pour commencer, est-ce que vous voudriez rebondir sur ce que vous avez entendu
Il y en a pour tous les goûts au Pont de Montvert, sud de Montlozère. Il y a certaines personnes qui apprécient l'été pour les baignades parce que c'est un moyen aussi de se rafraîchir par les temps qui courent où on a de fortes chaleurs. Et d'un autre côté aussi, effectivement, on a la chance d'être sur un territoire où les saisons sont bien marquées et toutes les saisons ont leur lot de charme. Donc je ne suis pas surpris aussi qu'on puisse parfois apprécier l'hiver et l'automne ou même le printemps. On a une vie sociale très riche dans notre commune.
Merci beaucoup, Stéphane. Thank you so much. Our first question is, as far as we know, nature has always played a crucial role in your life. How being brought up in a rural community influences your politics? What does nature mean for you?
Alors, merci pour votre réponse. Et comme nous le savons, la nature a joué un rôle crucial dans votre vie. Comment avoir grandi dans une communauté rurale a influencé votre politique? Qu'est-ce que la nature représentait pour vous?
Alors la nature représente beaucoup de choses pour moi, mais je crois que pour les habitants et les administrés de la commune du Pont de Montvert, c'est très important. Si je suis là aujourd'hui, si je suis engagé dans la vie publique, c'est aussi parce que ce territoire m'a beaucoup donné. J'ai apprécié de vivre ici, il y fait bon vivre, et puis il y a des personnes qui ont aussi une philosophie de vie, et je crois que c'est un dénominateur commun, l'ADN de notre territoire, c'est de s'y sentir bien et de pouvoir agir à conséquence de telle façon que toutes les personnes qui souhaitent venir s'installer ici, on puisse le faire de manière convenable. Donc j'essaie d'allier à la fois l'amour d'un territoire et de pouvoir aussi le protéger, de le maintenir comme il est.
Mm-hmm. How do you think both locals and tourists are interacting with the park? How would you change something about it?
quel est votre avis sur l'interaction des touristes de locaux avec les parcs? Est-ce que vous voudriez changer quelque chose à propos de cela?
Alors, on a un territoire qui aujourd'hui observe une profonde mutation. On a un changement climatique assez important. Et donc effectivement, ça pose des questions. Et donc, sur l'accueil des touristes, je pense qu'en tout cas, le conseil municipal, dans sa globalité, souhaite vraiment bien accueillir. Je crois qu'on tient particulièrement à un tourisme de qualité et moins de masse. Alors, effectivement, le territoire et la commune de Pont-de-Mauvert, sud de Mont-Lozère, est un peu victime de son succès. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter ce village, ces centres-bourgs, ces hameaux. Et d'un autre côté, il faut qu'on arrive à concilier les enjeux environnementaux avec justement le tourisme qui est là et très prégnant sur notre territoire. Donc on s'efforce en tout cas d'être vigilant et d'essayer de réfléchir aux meilleures réponses que l'on peut apporter sur ce territoire-là en matière de tourisme.
Mm-hmm. During your last presidency election, Stefan, for the park in 2024, you accomplished something extraordinary. You were elected unanimously by the board of directors. How did you manage to gain so much trust from your peers?
Je croise mes doigts pour le succès précédent, mais passons à la politique. Lors de la précédente élection pour le parc en 2024, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez été élu à l'unanimité par le conseil d'administration. Comment êtes-vous parvenu à aussi bien gagner la confiance de vos pairs?
Alors, c'est vrai que ça m'a mis une grande pression quand tout le monde, finalement, fait confiance sur un acte de candidature. Je pense que déjà, le fait d'être maire du pont de Montmerci de Mont-Lozère, où il y a tellement d'enjeux sur ce territoire-là, ça permet de pouvoir les porter aussi à l'extérieur et notamment dans le parc national des Cévennes. Et je pense aussi qu'il y a cette écoute attentive des gens qui veulent s'exprimer. Je pense que concilier à la fois une vie rurale et agricole avec des enjeux environnementaux, c'est pas toujours évident. Et l'idée, c'est que les décisions ne sont jamais figées. C'est-à-dire qu'on peut mûrir sa réflexion et on peut changer de cap. Et moi, je dois avouer que de rentrer dans l'établissement public Parc National des Cévennes, ma façon de voir les choses a beaucoup évolué. Et donc, je m'en suis servi. J'essaie d'être vraiment très à l'écoute de ce territoire-là, d'essayer de faire progresser les choses tout en respectant la nature qui nous entoure. Donc, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je pense qu'avec de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance, du dialogue, parce qu'il en faut énormément aussi, surtout par les temps qui courent, on arrive à accoucher de belles réponses, de beaux projets. Et donc, c'est ça aussi qui... Donc, effectivement, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, parce qu'il faut être courageux aussi. Et être courageux, c'est parfois ne pas aller dans le sens général. C'est aussi essayer d'être vigilant sur celui ou celle qui a besoin qu'on lui tende la main. Et donc on essaie de faire en sorte, en tout cas, d'expliquer, d'être vraiment très pédagogue chaque fois qu'une décision est prise, pour que justement elle puisse être véhiculée au sein du conseil d'administration.
Monsieur Moran, you're also contributing to a local life as a headmaster of an elementary school in Florac. What are the values that you want to teach to young people?
Alors, sur le cas d'être pédagogue, vous contribuez également à la vie locale en tant que directeur d'une école élémentaire à Florac. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à la jeunesse?
Alors plusieurs, les premières valeurs qui me viennent à l'esprit, c'est les valeurs républicaines. d'avoir un cadre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écouter tout le monde. Et c'est ce que j'essaie en tout cas d'inculquer à la jeunesse. Après, effectivement, je pense que on est sur des enjeux environnementaux sur notre commune et même sur le territoire plus globalement, y compris à Florac. Et l'idée, c'est vraiment que tout passe aussi par la jeunesse. Je pense que parfois, la jeunesse a ce don, a cette capacité à faire changer les choses. Et bien souvent, ça passe, les jeunes passent par leurs parents, et donc il y a des mesures qui sont prises, et grâce à la jeunesse, on peut les voir aboutir. Et donc je trouve, et puis depuis que j'exerce, ça fait maintenant plus de 26 ans, j'ai toujours eu des enfants bons. Vraiment, des enfants qui avaient cette capacité à réagir, à s'offusquer de mesures qui pouvaient les heurter. Et je trouve que cette jeunesse nous maintient en éveil. Et donc c'est aussi pour ça que je prends beaucoup de plaisir auprès d'elle à véhiculer un certain nombre de valeurs, les valeurs républicaines, les valeurs aussi de respect, de d'humanité. Ça, je pense que c'est important aujourd'hui de mettre tout ça en lumière, quoi.
C'est magnifique. As far as we know, you recently founded a new institution, l'Amazon du Monde d'Auxerre, which plays the role of an art gallery in the life of a local community. Could you tell us more information about it? Do people enjoy it?
C'est magnifique. Merci pour votre message et pour votre croyance à la jeunesse. Et comme nous le savons, vous avez récemment fondé la Maison du Pont-Lozère, qui joue le rôle d'une galerie d'art dans la vie de la communauté locale. Pourriez-vous nous donner plus d'informations à propos de ce lieu? Est-ce qu'il se plaît aux gens?
Alors, c'est un projet qui a mis longtemps à arriver jusqu'à nous, effectivement. Mais effectivement, cette maison du Mont-Lozère qui va accueillir un musée, c'est un peu le lien entre ses habitants et le territoire, avec une thématique bien importante pour nous, qui est l'agropastoralisme. Voilà, et donc en fait cet espace-là est là pour témoigner de ce que l'homme a apporté à la nature et ce que la nature a apporté à l'homme. Et donc on a vraiment un exemple là de d'enjeu entre cette cohabitation nature-homme là qui est importante et qu'on essaie de proposer en tout cas aux touristes ou aux personnes qui viennent sur le territoire. Et ça fait aussi le lien avec la population, c'est-à-dire des personnes qui veulent découvrir notre territoire, qui voit comme qui peut s'apercevoir de comment l'homme a façonné finalement cet espace-là et tous les enjeux qu'il y a de repousser au maximum aussi la forêt et qu'on puisse garder des espaces qui ne sont pas envahis par la broussaille. Voilà, donc tous ces enjeux-là, aussi d'élevage, parce que on est sur une commune hyper rurale où le monde agricole a toute sa place. Et donc voilà, l'idée c'est de témoigner, de montrer que l'homme et la nature ne font qu'un.
Mm-hmm. Speaking about nature, how do you see the variety of flora and fauna has evolved through the years in here in the natural park?
Et restant à la sujet de la nature, est-ce que vous avez vu une évolution de la faune et la flore au cours des années?
Incontestablement, oui. Le temps change. Ça, c'est une évidence. Voilà, il y a des choses qu'on voit apparaître qu'on ne voyait pas auparavant. Je me vient à l'esprit, par exemple, les tomates. Les tomates, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur les hauteurs, et maintenant que l'on voit. Donc, effectivement, il y a un réchauffement climatique très important. Et donc, la nature évolue. Et c'est vrai que cet espace-là, il faut essayer de le protéger au mieux, avec cet afflux de touristes qui arrivent, parce que justement on se singularise par rapport à d'autres territoires sur le territoire national. Moi, je pense que le parc national des Cévennes a une place de choix, parce que il y a des, je le dis souvent, il y a quelques années en arrière, il y a eu ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, où il y a eu une mécanisation. On a essayé de faire en sorte d'atteindre un progrès social, économique, politique. Et la Lozère l'avait un petit peu loupé. Et en fait, on était quand même un petit peu en retard. Mais ce retard qui était au départ une grande faiblesse, parce qu'il y avait un exode rural, parce que tout le monde avait quitté les hameaux, le centre-bourg, cette faiblesse-là est devenue une véritable force, parce que du coup, notre territoire n'est pas du tout abîmé. Et donc, pour moi, c'est important, en tout cas, tout cas, c'est l'enjeu que nous avons au sein du conseil municipal, au niveau des élus, à préserver ce territoire tel qu'il est aujourd'hui. Si on arrive à le maintenir pendant des années comme il est actuellement, eh bien, le pari sera gagné et on aura vraiment... on a une commune exceptionnelle, mais elle sera encore plus exceptionnelle si on arrive à maintenir ce cap-là, quoi.
Just a little bit of personal information. I'm from Spain and I've never seen wolves. And maybe one question. Do we have groups of wolves in here in Mont Loser? Is it true? What do you think do you do to protect them, and how do people relate with them? Is it that a sensitive project or...
Notre deuxième journaliste dit que elle vient d'Espagne et il est curieux si les groupes de loups sont arrivés, et que faites-vous pour les protéger et quelle a été la réaction de la population? Est-ce que le sujet est sensible peut-être, mais il est très curieux.
Oui, c'est un sujet très sensible. Ça, c'est une évidence, effectivement, mais on a pour habitude de le traiter. Parce que c'est là où je parlais tout à l'heure de courage. Je pense que ça ne sert à rien de fermer les yeux, de se dire que ça se passe ailleurs ou sur les montagnes et ça ne nous regarde pas. Je pense qu'il faut affronter cette vision-là aussi. Le monde agricole, effectivement, en souffre, lié justement à cet enjeu d'agro-pastoralisme. Effectivement, il y a du loup sur le Mont Loser. On a en tout cas l'établissement public, alors là je prends ma casquette de président de Parc National des Cévennes, on a en tout cas fait en sorte d'accompagner ce monde agricole du mieux que l'on pouvait. Alors j'entends aussi le désarroi des paysans, hein, qui se situe sur ce territoire-là. Et donc l'idée, c'était vraiment de les épauler au maximum, déjà se protéger, voilà, de faire des avances aussi sur des investissements pour la protection des troupeaux. Et à côté de ça, effectivement, il y a le loup qui est prégnant là, et donc il y a des tirs de défense simple là, qui sont mis en place sur le territoire. Mais c'est vrai que c'est toujours assez paradoxal, parce qu'un établissement public par essence, le Parc National des Cévennes, est là pour protéger les espèces, la faune, la flore. Donc c'est toujours délicat de dire on va tirer sur un animal sauvage. Donc c'est toujours pareil, il faut dialoguer, il faut voir ce qu'il est possible de faire, il faut essayer en tout cas de favoriser le maintien de ces agriculteurs sur le territoire, tout en essayant de respecter au maximum la faune et la flore. Donc c'est pas évident, mais on en discute. Déjà le fait de le verbaliser, parce que c'était un sujet, ces dernières années, c'était quand même un sujet assez tabou. Et donc le fait de ne pas en parler, ça alimentait aussi toutes les spéculations sur cette thématique-là, sur ce dossier-là. Et donc je pense que le mieux, c'est d'en parler, de faire en sorte de trouver des solutions. Et puis ces solutions-là, elles n'appartiennent pas forcément au maire que je suis ou au président du Parc National des Cévennes, qui est un établissement public, mais c'est l'État et c'est même l'Europe, parce que le loup est protégé par l'Union européenne. Et donc si on veut faire avancer les choses, il faut essayer de faire remonter un certain nombre de difficultés, et puis ensuite qu'il y ait une prise de décision collective, de telle façon à ce qu'on puisse accoucher de la meilleure des réponses possibles à la fois pour le monde agricole et pour ceux qui sont attachés aux enjeux environnementaux.
Voilà. Finalement, are there any challenges approaching in the future related to your politics and climate change? What would you say to encourage people to get to know more about this amazing place and protect it?
Alors, la dernière question. Y a-t-il des challenges concernant le futur de politique pour le climat? Que direz-vous pour encourager les gens à découvrir et protéger cet endroit incroyable?
Alors, je crois que ceux qui résident sur ce territoire-là ont ça aussi dans le sens, c'est-à-dire de protéger ce territoire-là. Je crois qu'on est tous amoureux de notre territoire. Je crois qu'on est une communauté d'irréductibles gaulois qui est vraiment fortement attachée à son territoire. Et j'ai pas vu aujourd'hui des personnes qui voulaient l'abîmer sur le territoire. Ça, c'est une évidence. Après, il y a des enjeux. Alors, ces enjeux-là, c'est de concilier la vie publique, de prendre un certain nombre de décisions sans forcément contribuer à abîmer, à détériorer le territoire dans lequel nous vivons. Donc l'enjeu, à mon avis, c'est que dans des années, dans les années à venir, on puisse toujours maintenir cet espace est si exceptionnel et qu'on puisse le faire de manière raisonnée, mesurée et en sensibilisant les nouvelles générations, parce que nous c'est déjà, on est déjà les anciennes générations, c'est la jeunesse qui va prendre le relais, et cette jeunesse-là, il faut qu'elle soit éclairée, et pour qu'elle soit éclairée, il faut lui apporter de la connaissance, et en tout cas c'est ce qu'on s'évertue de faire aujourd'hui au sein du conseil municipal. On passe beaucoup par les jeunes et on essaie de véhiculer un certain nombre de valeurs. Tout à l'heure on parlait de ces valeurs-là, et si on arrive à les transmettre, eh bien je pense qu'à l'avenir on aura toujours un territoire exceptionnel, et je crois que l'enjeu en tout cas il est forcément là, quoi, hein. C'est de maintenir cette qualité de vie que nous avons sur le pont de Montversin de Montlozère, sans trop le dire, parce que sinon on risque d'avoir beaucoup de monde, parce que c'est quand même un endroit très privilégié, quoi. Voilà.
Okay, Stefan, Moran with us. Thank you so much for joining us. We have been so happy to hear from you, all the information that you provided. Thank you so much in the name of Spanish, French and Polish people interviewing you. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci
à vous.
Merci.
Merci à vous.
No matter how cloudy or sunny, it's always fun. You are listening to Radio Bartas, Sunset FM at Lozero Region. Beautiful sunsets in company of Sunset FM.
Now I was on the road and I bought myself a newspaper. Opened up the page and I read my horoscope. They said, when your car died, you'll meet a dark stranger. They took away my cares and they filled me up with hope. What a groan! All that soft soul. Really, there was no hope.
We also had the pleasure of talking with Val, who you might know as the director of the camping La Barrette, but this talented man who is now living in Lozère is also an artist. In the next interview, we'll get to know more about him and the role that Lozère played, not only in his art, but also in him as a human being.
Moon, we are introducing Val, which has been invited to our program. We are people that came to the radio program for the Radio Bartas. Thank you so much for being here, Val.
Thank you, too.
We're going to ask you some questions about your work, about Lozère's life, and about the environment, and how would enjoy and how would spend your time in here. We are in a project called On Air to promote French countryside on radio. We are now on the beautiful Lozère region with Valerian van Houdengem. Is it called the pronunciation? Yes. Valerian van Houdengem?
Van Houdengem.
Van Houdengem.
I only translate.
Known as Val. Correct me if I'm wrong, a Belgian cartoonist that also leads a camping at Finials.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a amené ici? Est-ce que c'était le travail ou le personnel ou la spiritualité ou d'autres choses?
Les paysages surtout et avant tout, la qualité de vie et la nature.
Donc nous savons que vous êtes ici depuis 10 ans maintenant. Donc est-ce que vous pourriez nous dire si c'est le charme de Lozère qui vous a fait rester? Qu'est-ce qui vous a poussé à rester ici aussi longtemps?
Difficile à expliquer. Je me suis senti chez moi tout de suite. Donc c'est à la fois le charme de la région, la géographie des lieux, le climat et les gens. Donc c'est tout ensemble, voilà.
Nous avons vu que vous êtes un artiste professionnel depuis 2011. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait commencer à publier dans votre trentaine?
Il fallait le sortir. Il fallait sortir ce qu'on a au bout des mains, ce qu'on a dans la tête. Et donc, l'objectif était vraiment de se dire d'arrêter de dessiner dans ces petits cahiers en réunion. Donc, il fallait vraiment le sortir. Et c'est ce qui m'a permis d'être professionnel, quoi. En tout cas, c'était la raison pour laquelle je voulais être professionnel.
Donc vous avez été influencé sûrement par Tintin et Astérix, d'après vos lectures d'enfance. Et est-ce qu'il y a-t-il des références par rapport à ces BD dans vos œuvres? Et aussi, quelle est votre propre touche personnelle dans vos œuvres à vous?
Réponse difficile là pour le coup. Oui, les références, forcément, on est toujours influencé par ceux qui nous ont précédés. Donc ils m'ont influencé au niveau du trait du dessin, au niveau de l'humour, au niveau de ce que j'avais envie de faire passer, au niveau de la manière dont je voulais le faire passer. Donc oui, les références, que ce soit Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix, etc., enfin tout le monde de la BD, forcément. Et on retrouve effectivement ça, et puis la patte perso, c'est le travail qui la détermine. C'est à force de travailler, de travailler, de travailler qu'on retrouve son trait personnel.
Pensez-vous que Lozère a Absolument. Influencé votre
travail ? Absolument, oui. Aussi bien pour l'inspiration que pour la création.
Dans quelle façon Lozère vous inspirait ?
Les personnages que je crée sont des personnages qui se passent ici en Lozère. Donc c'est aussi les paysages que je dessine. Mm-hmm. Et puis la qualité de vie ici permet l'inspiration.
Est-ce que vous avez déjà travaillé avec la communauté locale, comme la presse ou autre ?
Oui, bien sûr. Oui. Mmh. La presse et d'autres choses, les panneaux qu'on voit sur les routes, par exemple, ici, c'est moi qui les ai dessinés. Oui,
Nous avons remarqué qu'il y a des marchés nocturnes dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? Et est-ce que vous avez déjà exposé là-bas ? Et sinon, est-ce que vous aimeriez exposer vos œuvres ?
Alors je l'ai fait pendant plusieurs années, où je faisais tous les marchés, comme ce marché nocturne, comme au Pont de Montvert, à Saint-Enimy, où je vends mes bandes dessinées, le festival de bandes dessinées qui existe aussi à Saint-Enimy, donc je tourne un peu partout, que ce soit en Lozère, en France ou ailleurs.
Beaucoup de parties.
Oui.
Mm-hmm. Ok.
Nous avons vu que oui, vous dirigez donc ce camping également à côté de vos travaux de dessinateur. Et qu'est-ce qui est arrivé en premier là ? Plutôt la région qui vous a attiré ou c'est alors directement un job dans ce camping qui vous a attiré dès le départ ?
Alors non, je suis d'abord arrivé en Lozère. Et le camping, ce camping précisément, qui m'a attiré. Donc travailler dans un camping, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Et vraiment ce camping-ci m'attirait encore plus que les autres. J'aurais pas pris n'importe lequel. C'est celui-ci et puis c'est pas n'importe.
Et pourquoi celui-ci du coup ?
Parce qu'on est vraiment sur un concept de camping, camping. On n'est pas sur du HLM de vacances, on n'est pas sur de la consommation à outrance. On est vraiment sur un camping nature où la nature et l'humain se rencontrent. Et c'est ça qui fait la beauté du lieu.
Nous avons remarqué, oui, nous sommes impressionnés par la quantité de touristes ici. Mmh. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Et aussi, qu'est-ce qui fait de ce lieu une destination touristique ? Et s'il fallait améliorer des points, qu'est-ce que ça serait ?
Alors oui, il y a beaucoup de tourisme. Je pense que le tourisme a augmenté et continue d'augmenter. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Juste peut-être le nombre d'hébergements, mais je dirais améliorer et pas augmenter. Donc il faudrait certainement améliorer la qualité. Augmenter, non, parce que ça deviendrait un lieu touristique de masse. Et là, ce serait vraiment dommage. Un lieu comme celui-ci, il ne faudrait pas qu'il soit non plus démoli par le tourisme. Il faut attirer le tourisme parce que ça vaut la peine. Et les gens ont raison de venir ici. Mais si on en fait trop, après, ça va démolir aussi le charme du lieu. C'est un avis tout personnel, évidemment.
Est-ce que parfois vous réunissez votre travail de dessin avec le camping, le travail au camping ici ?
Rarement, c'est parce que c'est difficile. C'est pas que je veux pas, c'est juste c'est difficile de se partager l'esprit. En général, quand c'est pleine saison, je suis à fond sur le camping et j'ai pas vraiment l'esprit disponible à autre chose. Et quand c'est l'hiver, le camping est fermé.
Et donc finalement, si vous deviez recommander cet endroit à quelqu'un qui voudrait visiter, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de découvrir cet endroit ?
De venir, et puis il appréciera sur place.
Et merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et nous sommes très heureux d'avoir pu vous interroger et nous sommes sûrs que ça va intéresser les gens qui écouteront cette interview.
Merci à vous.
Well, this was Historic Papillon. Thank you really much for everyone that's here participating and thank you really much to Stefan for being here and being our interviewee. Un plaisir.
Les papillons hystériques. Thank you so much, Stéphane.
Thank you very much.
Thank you for being here.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir.
Salut!
Hola!
Tchèche!
Allô!
You're listening to...
Vous êtes avec
RSAP. Join us to rediscover Lausanne through a new lens.
Good afternoon, everybody. We hope you're having a great day, but we're here to make it even better.
I'm Kai.
And I'm Maya.
And as your animators, we will be taking you through a journey discovering the people of Pont de Montbert, their lifestyle and their art.
But hold up, Kai. We should introduce our team, right?
Yes.
You're listening to RSAP, brought to you by the amazing team of Radio Bartas and the Ref Association. And of course, we are not here alone. We've got our two brilliant journalists, Clara and Emilia. who will be leading today's interviews. And of course, let's not forget about the team making this whole show possible, our amazing technicians, Elea, Kasia, Miss Malina, working behind the scenes so that everything you hear today runs smoothly.
But what will you be hearing, you may ask? Let's start with a small montage as an appetizer about how this community has affected the people living here. Get the tissues ready because it won't leave anyone unmoved.
Believe us, we cried while making it.
Quel est notre village? Donc le pont de Montvert, sud de Mont-Lozère. Voilà, un village d'à peu près 600 habitants. Voilà, donc entre le bourg où vous êtes arrivé et où vous nous interrogez, et puis les hameaux qui sont un peu partout sur la commune, et les trois anciennes communes historiques, donc le pont de Montvert, Fraissinet de Lozère, et puis Saint-Maurice de Ventalon, qui se sont réunis en 2016 pour faire une seule commune, pont de Montvert, sud de Mont-Lozère. Un village rural avec beaucoup d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants.
Eh ben, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. On est très dispersés, en fait, parce que c'est un territoire assez important. On a aussi une population âgée, même très âgée. On a eu jusqu'à des centenaires. Après, c'est une activité essentiellement agricole. Puis l'été, c'est touristique, donc c'est ce qui fait vivre le bourg. Et les hivers sont très longs, voilà. On a beaucoup moins de neige qu'auparavant, mais c'est un peu triste l'hiver. Ouais. Parce qu'on a des maisons avec des pierres grises, des toitures avec de l'ardoise grise. Donc c'est triste, mais en même temps, dès qu'on sort du bourg, la nature est toujours très belle. Elle est toujours très différente. En toutes les saisons, là on va arriver à l'automne, on va avoir des arbres de toutes les couleurs, doré, mordoré, orangé, c'est très 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 beau. Au printemps, on a toute une palette de vert, quand les forêts reverdissent. Bon, moi qui suis à la retraite, j'ai un peu le temps, donc je guette un peu tous ces changements et je trouve ça fantastique.
Here, I love the nature. First of all, because we like to go and walk in the forest, in the countryside.
Il y a les bassins naturels dans une rivière pas loin, c'était hyper bien.
Et puis on vient du sommet de Finiel, où on a randonné, la descente en fait sur le village elle est magnifique, on a une super vue. Et on a vraiment apprécié l'arrivée sur le village de Pont-de-Montvert.
Oui, pour moi c'est une source de création et en plus je viens dans ce village depuis l'âge de 5 ans avec mes parents. On était les premiers campeurs à la place du camping, il y avait des jardins.
For me, coming from a city, it was wonderful. I discovered a way of life with people who never lived in a city. And you get to know them, they are very interesting people. With a good mentality, yeah, they open your door, they invite you to eat the product from the area. I lost my parents very young, when I was very young, and I got a family here, and they accepted me.
You can see how people really, really love this place.
And we do too.
Yes, but now, the moment that we've all been waiting for, we have with us our really special guest, Cyril Jalmint. He's an actor and director who is part of a theater that doesn't exactly stick to the stage.
And instead, they bring their shows outside into open spaces, turning everyday situations into artistic performances, as well as public theaters. So now, we pass the mics to Clara and Emilia.
Bonjour Cyril, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes deux pour cet entretien. Clara va lire les questions en anglais et je vais les poser et animer la conversation en français. On commence.
Allez, c'est parti.
What is theater clandestin?
Alors, c'est quoi le théâtre clandestin?
Alors, le théâtre clandestin, c'est une association de loi 1901 déjà. Ça, c'est très important de le rappeler. Et donc, c'est une compagnie de théâtre. Donc qui développe l'art sous toutes ses formes, que ce soit donc du théâtre, de la danse, de la musique, voilà, plein de choses, à partir du moment où elle est artistique. Voilà.
Et bien, quel est votre rôle au sein de Théâtre Clandestin?
Eh bien, des fois je joue, des fois je dirige, et souvent je suis coordinateur, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est un peu administratif, les trucs un peu chiants, la comptabilité, la relation avec les subventionneurs, voilà, tout ce genre de choses.
Ok, on avance.
Why do you think it is important to bring out theater to public spaces?
Alors pourquoi pensez-vous qu'il est important d'amener le théâtre dans les espaces publics?
Alors, amener le théâtre dans l'espace public, c'est d'abord créer du lien social. En fait, c'est être ensemble, c'est-à-dire partager des choses. Vraiment, ce qui est important dans le théâtre clandestin, ça a toujours été de partager des choses. Je repense au cycle de lecture publique qu'on a fait pendant l'hiver et l'été sur les places publiques. Surtout l'hiver, les gens faisaient la soupe. Et c'était vraiment un moment où on partageait quelque chose. Parce que les gens, aujourd'hui, je suis persuadé que les gens ont besoin de partage, en fait. Et donc de lien social. Et puis, le fait de faire aussi de l'art dans l'espace public, c'est aussi de rendre accessible l'art pour tous, hein. Je veux dire, si quelque chose se passe ici, par exemple, là, on est en train de faire un plateau radio, c'est accessible à tout le monde peut passer, venir, écouter, et c'est ça qui est important, en fait, dans l'art et la culture, c'est, en fait, que peu importe l'argent qu'on a, ou qui on est, de quelle origine on vient, à un moment donné, on peut être touché par quelque chose qui se passe dans la rue. Et c'est aussi... En effet, pour décloisonner aussi l'art qui se passe souvent dans des théâtres, dans des lieux clos, qui sont souvent perçus pour certaines personnes sur quelque chose d'élitiste, c'est-à-dire qui n'est pas accessible. Vraiment, c'est rendre accessible l'art de le faire dans l'espace public. Et aussi, ce qui est important, c'est que l'espace public aussi appartient à tout le monde, et à un moment donné aussi, quand l'art se déroule dans l'espace public, c'est de voir autrement les choses, l'architecture, les paysages, on les voit pas pareil, en fait, et d'avoir des histoires, des expositions, peu importe quoi que ce soit, on voit les choses autrement. Par exemple, dans ce temple qui est juste à côté de nous, où les protestants du Pont-Montvert accueillent souvent des expositions, eh bien, à chaque fois que je vais voir une exposition dans ce lieu, que ce soit des peintures ou de la photo, eh bien, le temple reste le même, mais pourtant, le fait qu'il y ait des choses accrochées, des visages, des paysages, des photos, où des artistes se succèdent, on voit pas le lieu de la même façon. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans l'art, c'est de voir les choses autrement, en fait, de rêver et d'imaginer.
Alors, il me semble que Théâtre clandestin est une manière de casser les frontières entre l'art et le quotidien. Je poursuis.
What topics or themes are explored in your shows?
Alors, quel sujet et quel thème explorez-vous dans les spectacles?
On explore plein de thèmes. Tout ce qu'on peut imaginer. Après, il y a des thèmes, on va dire, très généraux au théâtre. On va dire que déjà, il y a l'amour. Ça, c'est le truc banal, hein, dans le théâtre. Hein. L'amour, on peut penser à Roméo et Juliette de Shakespeare, par exemple, qui est très universel quand même. On explore aussi les relations de famille, les relations entre les gens, les conflits. On explore le pouvoir aussi, le rapport au pouvoir. Ça, c'est vraiment... S'il y a bien deux choses importantes, c'est l'amour et le pouvoir, en fait. C'est ça qui dirige un petit peu la société d'aujourd'hui. Et en fait, le théâtre et ce qu'on peut faire au théâtre n'est que le reflet de tout ça, en fait. Et après, bien sûr, parler de la condition humaine, de sa mort, par exemple, de c'est quoi vivre. Je repense encore hein, aux expos qu'on voit juste à côté, c'est marrant. Hein, et il y a un peintre qui est venu exposer dans ce temple. C'était un visage de personne africaine, d'origine africaine. Et vraiment, son regard était extraordinaire. J'ai encore la vision de ce tableau. Et au théâtre, hein, c'est pareil. Dans la compagnie, on explore ça, justement. On explore tout ce qui est invisible aussi. Tout ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est important aussi.
Alors, l'amour, le pouvoir, c'est sur le thème très fort. Et justement, comment le public y réagit?
How do people react to your performances?
Ben, il réagit... C'est dur comme question. Non, mais souvent, quand même, on a des bons retours. Parce qu'aussi, ce qui est important pour nous, justement, c'est de ne pas faire de la politique. C'est que le théâtre n'est pas là pour imposer une idée ou une idéologie. Il est là pour questionner les gens, en fait. Les gens viennent au théâtre pour se questionner. Et quand, justement, les gens nous font des retours et qu'ils posent des questions, bah, déjà, c'est tout gagné. En fait, il n'y a pas un spectacle qui est bien ou un spectacle qui n'est pas bien. Il y a des spectacles qui posent des questions. Et ça, c'est ça le plus important, en fait, c'est de se poser des questions. Même si on n'a pas aimé, ça touche forcément. Le fait que des hommes se représentent devant d'autres hommes, alors je dis hommes, femmes, bien sûr aussi, c'est tellement incroyable, en fait. C'est très mystérieux, quand même. Depuis la Grèce antique, c'est comme ça. Et ouais, c'est...
Bon, je comprends, merci. Alors, prochaine question.
How much space do you leave for improv in your performances?
Quelle place accordez-vous à l'improvisation dans votre performance?
L'improvisation est à la base de tout travail théâtral, en fait. Après, il y a une spécialité, hein, il y a le théâtre d'improvisation, mais même le théâtre d'improvisation est en fait très travaillé. Le mot improvisation, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, en fait, à la base. Donc, on commence toujours un travail par justement de l'improvisation et quelque chose qui n'est pas prévu, et après ça se transforme en quelque chose de très travaillé et quelque chose qui est très prévu. Justement, on laisse peu place à l'improvisation au final, même dans des matchs d'improvisation comme on peut voir dans la spécialité justement de l'impro.
L'imprévu devient une force dans le théâtre.
La contrainte aussi est très importante. Moi, j'aime beaucoup la contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, on est dans un espace public, on doit faire quelque chose ici. Eh bien, la contrainte, c'est y a du soleil, il y a des arbres, il y a ce mur, il y a le vent. C'est intéressant la contrainte, parce que d'un seul coup, le vent, ça peut nous faire imaginer qu'on est sur un bateau, par exemple, et ça nous fait voyager, ça nous fait aller ailleurs, en fait. La contrainte est l'accident aussi. L'accident est justement, quand on improvise au théâtre, ce qui est intéressant, c'est justement quand il se passe un accident, quand un acteur fait quelque chose qui justement n'était pas contrôlé. Par exemple, il tombe par terre, ou il fait tomber quelque chose, ou il bafouille. Tout ça, ces accidents peuvent devenir justement du jeu. Et justement, le rôle du metteur en scène, c'est aussi à un moment donné de dire « Ah, bah tiens, ça c'est intéressant, on va le garder. » Et souvent, de l'accident naît des choses magnifiques.
Okay. Merci, en avance.
What do you intend to awake in your spectators?
Que souhaitez-vous sensibiliser chez les spectateurs du théâtre clandestin?
Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, que les gens se posent des questions. Mm-hmm. C'est tellement important de se poser des questions. En fait, quand on est petit, on se pose plein de questions. On pose plein de questions. D'ailleurs, j'en connais une là-bas qui pose plein de questions. Elle pose énormément de questions. Et souvent, on leur dit, arrête de poser des questions, arrête, Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc en fait, on brime, dès qu'on est petit, on brime les gens à ne plus poser de questions. Et du coup, les gens ne posent plus de questions. Et c'est bien dommage, parce que se poser des questions, c'est vraiment apprendre à vivre le monde dans lequel on vit, en fait. À se poser des questions, c'est se remettre en question, c'est tellement important. Donc ce qui est important pour le théâtre clandestin, c'est vraiment que les gens se posent des questions.
C'est une très belle mission pour éveiller la curiosité des jeunes. Alors, pour la dernière question, j'aimerais citer une phrase qu'on trouve sur les sites de théâtre clandestin. Alors, questionner ce qui fait de nous des êtres humains, voilà ce qui taraude le théâtre clandestin.
We would like to know what is it that you've learned throughout your performances about what it means to be human. What are to you the things that make us human?
Alors, au fil de vos performances, qu'est-ce que cette idée signifie pour vous? Qu'avez-vous appris sur ce que signifie d'être humain?
Bah, être humain, c'est tellement important. C'est un grand mystère, en fait, être humain. Être humain, c'est chercher du sens aux choses. Être humain, c'est aimer, être aimé. Être humain, c'est tellement de choses, en fait. C'est vrai que c'est marrant parce que cette phrase, je l'ai écrite en 2009. Donc il y a un petit moment, et c'est rigolo de comme ça de ressortir des trucs, des archives là. Mais en fait, théâtre clandestin, pour expliquer un petit peu comme ça, ça va peut-être répondre un petit peu sur l'humanité, en fait. Théâtre clandestin, en fait, ça vient d'un metteur en scène polonais qui s'appelait Tadeusz Kantor. Et donc ce metteur en scène polonais faisait du théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a fondé un théâtre qui s'appelait le théâtre clandestin. Et en fait, il faisait du théâtre dans les caves. Parce que bien sûr, il était polonais, bien sûr, il y avait les Allemands qui pourchassaient les Polonais. Et du coup, lui continuait de faire du théâtre. Et il faisait du théâtre dans les caves, caché. C'est pour ça qu'il a appelé ça le théâtre clandestin. Et c'est aussi pour ça que on l'a appelé comme ça, parce que ici, dans les Cévennes, quand on est arrivé, on a tout de suite compris qu'on était dans un pays de maquisards et un pays de camisards aussi. Donc les camisards, c'est la guerre de religion, et les maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas aujourd'hui, on ne fait pas du théâtre dans les caves, bien que peut-être un jour ça arrivera, parce que la culture ne va pas très bien en ce moment. Mais en tout cas, on est content d'être sur ce territoire, parce que ça nous parle vraiment, justement, sur l'humanité. Parce qu'on n'est pas beaucoup, comme on a pu l'entendre juste avant dans les témoignages, on est 600 dans ce village, mais il y a une grande humanité dans ce village, parce que elle a accueilli et accueille encore des gens réfugiés de Syrie, de Tchétchénie, et c'est ça qui fait la force aussi d'un groupe de personnes. C'est la cohésion d'un groupe, c'est de pouvoir accueillir et d'ouvrir les mains et de tendre les mains. Et si au théâtre, justement, on peut essayer d'y mettre un peu d'humanité, et que les gens puissent à un moment donné se poser des questions sur, par exemple, les bombes qui tombent sur la gueule des gens à Gaza, c'est bien.
Ok, merci beaucoup Cyril pour cet entretien.
Thank you very much for sharing with us about your work in the theater field. It was really interesting to hear about the perspective that Theater Clandestin brings out to the public.
Merci à vous.
Merci.
We are getting to the end of the show, but not the end of the night, because remember that we'll be waiting for you at our international dinner in the Garden of the Temple at North Pont of the Montbert at 6.
Charlotka, Fidewa, Coque Monsieur, and many more things are waiting for you. Until then, a huge thank you for our guests, our team, Clara, Emilia, Kasia, Elea, Miss Malin, and Kay.
And to you, Maja, and of course, thanks to you for listening. See you soon.
Do usłyszenia.
Au revoir.
Au wiedersehen.
Hasta pronto.
See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground.
Try
Quiche Lorraine,
Jabłecznik,
Tortilla de Patatas. Do you know where they are from? You will enjoy them at Le Jardin du Temple the Monday 25, with a live show at 16 and dinner at 6. Don't hesitate to participate in the event and bring whoever and whatever you want.
Avez-vous déjà essayé une quiche Lorraine,
Jabłecznik,
Tortilla de Patatas?
Savez-vous d'où ils viennent? Vous pourrez les découvrir au Jardin du Temple, au Pont de Montvert, lundi 25 août. Avec un live show à 16h et un dîner à 18h. N'hésitez pas à participer en venant avec qui vous voulez et en apportant ce que vous voulez.
Et voilà, auditeurs, auditrices de 48FM et de Radio Bartas, c'en est fini pour cette émission européenne. Ça parlait anglais chez Francis, J'ai Franklish, enfin voilà, lui,
Franklish, Ludo, c'est,
ouais, Franklish, c'est bien.
Que Francis c'est quelqu'un, mais c'est pas.
C'est un pas, c'est pas ça,
ça marche pas.
Ouais, ça marche pas. Ludo est avec moi, ça va Ludo?
Ouais, ça va super. Et toi?
Ça va très bien. On accueille en plateau Léa. Bonjour Léa.
Bonjour à tous.
Merci de nous avoir rejoints. On va discuter un tout petit peu du rêve et de ce projet et des projets qui arrivent, qui sont en cours, pourquoi pas. Cyril, tu es resté avec nous aussi. Je voulais te poser une ou deux questions sur, puisque tu es adjoint ici à la mairie du Pont de Montvert, et je voulais savoir un peu les liens qu'entretiennent la mairie et l'importance qu'a cette structure ici au pont, le rêve, pour la mairie et les liens que vous entretenez.
Tout d'abord, merci Ben de m'avoir retenu en otage sur ce plateau.
Je suis comme ça.
Poser deux questions supplémentaires.
Ça va, ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est très bien passé. Alors, Nous, on soutient en fait le rêve. Alors, on les soutient financièrement et puis un peu aussi matériellement quand il faut des tables et des chaises, par exemple. Et puis organiser
à la dernière
des
minute.
Choses. Mais disons que c'est un et c'est aussi un partenariat. Donc, on les soutient financièrement via des subventions. Et puis ce que disait Stéphane tout à l'heure, parce qu'on était en train de discuter un petit peu hors plateau, et on voyait tous ces jeunes arriver, et on s'est dit quand même, mais punaise, c'est vachement bien quand même, ça fait découvrir aussi le pont de Montvert à des jeunes, lui qui aime beaucoup la jeunesse, hein, vous l'aurez remarqué, Steph, et ça ouvre la commune aussi à des...
À des univers différents.
Voilà, elle est, oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et aussi, c'est une association où il y a des emplois. Et ça aussi, c'est très important sur la commune. Et c'est pour ça aussi qu'on les soutient autant qu'on peut, en fait, par rapport à la petite commune qu'on est. Parce que, voilà, on essaye quand même d'aider toutes les associations. Juste entre parenthèses, hein, la mairie du Pont aide à hauteur de 30 000 euros toutes les associations, ce qui est énorme par rapport à toutes les communes qu'il y a en Lozère, hein, quand même. Et donc voilà, c'est ce truc associatif. Et puis tous les bénévoles aussi qui tournent autour du rêve, qui sont habitants de la commune. Toutes les actions que font le rêve qui sont super intéressantes, notamment les dîners, dont celui qui va se passer tout à l'heure à 18h.
Ouais, à partir de, dans pas longtemps, n'hésitez pas à nous rejoindre, auditeurs, auditrices. Ludo.
Oui, alors on est avec Léa, déléguée régionale du réseau d'entraide volontaire. Merci de nous accueillir déjà ici au Pont de Montvert, nous avoir accueillis pendant cette semaine avec Ben de Radio Barthas. Pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas en fait ce qu'est le rêve, comment tu pourrais en parler? Comment tu pourrais nous présenter ce qu'est ce réseau? Quel est son objet? Quelle est son histoire?
Alors, déjà, merci beaucoup à vous d'avoir proposé ce projet à faire sur la commune et auprès de ce groupe international. Alors, le réseau d'entraide volontaire, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis plus de 40 ans et qui initialement était située dans le Gard, qui est arrivée en Lozère en 2021. Donc, c'est une association qui se définit comme un collectif de personnes qui agissent pour transmettre... C'est super dur à définir, mais l'éducation populaire, quoi, l'apprentissage en dehors des chaises de l'école et par le fait de valoriser les savoir-faire, les savoir-être, d'être en contact avec l'autre, avec un grand A. Et donc pour ça, on utilise des moyens comme le chantier de jeunes bénévoles, des échanges de jeunes comme celui qui est en cours actuellement, des formations, tout ce qui permet de se rencontrer, d'être un prétexte à rencontrer l'autre dans sa différence.
Alors justement, quel type de projet vous proposez? Là, donc il y a ce plateau radio, en même temps que nous, il travaille sur un jardin à Finiel, ça explique-nous?
Oui, alors du coup, c'est toujours... l'éventail est tellement large pour le type de projet qu'on peut accueillir, donc ça peut être des projets à vocation... qui aborde des sujets de société, l'environnement, la citoyenneté, le bien-être, le travail, la lutte contre les exclusions, comme du coup des supports plus techniques via le chantier de jeunes bénévoles qui se fait soit en interne, comme il y a eu beaucoup cette année, soit en partenariat avec des communes d'un territoire. Donc là, nous, on agit surtout sur l'Occitanie Est.
Ok, Ben, tu veux dire quelque chose?
Oui, moi je vais libérer de ma prise d'otage. Cyril, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai oublié de te dire au revoir à la fin de la première question. Merci du fond du cœur. Longue vie à la culture, longue vie à la radio et longue vie au Pont de Montvert.
Merci à toi, Ben. Et juste une petite chose quand même, parce que Ben va bientôt quitter la radio. Ah.
On va être libérés, nous aussi.
et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui. C'est parce que, par amitié, et vraiment, merci pour tout ton travail, que ce soit ici, avec le rêve, on le voit que c'est des vrais engagements sur des choses vraiment importantes, que ce soit aussi au collège de Florac, tous les deux on a fait des choses, enfin voilà, sur toutes les choses que tu fais, vraiment merci, et je serai là à la fête de la soupe pour te le redire.
Merci beaucoup ma force, et merci du fond du cœur Cyril, merci, on peut reprendre une vie normale. Merci Cyril, bonne route à toi, à très très vite, c'est sûr.
Et le rêve, vous fonctionnez comment? C'est avec le programme Erasmus+, c'est ça?
Pas forcément.
On
va dire qu'on mobilise ces dispositifs-là parce que ça fait écho à tout ce qu'on essaye de mettre en place. Donc on a des belles enveloppes de financement pour porter des projets où on va prendre en charge le transport des participants, l'hébergement, les activités, les intervenants extérieurs, etc. Mais ça représente 50% de notre modèle économique. Et c'est vrai que sans Erasmus+, on serait davantage en difficulté pour se développer, parce que l'éducation populaire, c'est plus vraiment soutenu politiquement comme ça l'était avant.
Ça fonctionne comment? C'est quoi votre type de gouvernance, du coup?
Eh bien, du coup, depuis qu'on est arrivé en Lozère, donc on s'efforce de mettre en place une gouvernance partagée. Donc, depuis quelques mois, voire depuis un an, on est en gouvernance partagée. Donc, c'est de la coprésidence. Donc, comme le disait Cyril, le conseil d'administration de l'association est composé essentiellement d'habitants du territoire, du Pont de Montvert, en grande majorité. Et donc, dans ce collectif de 9 personnes, il y a 4 coprésidents.
D'accord. Vous accueillez combien de jeunes à l'année ?
Alors, on tourne autour d'une centaine de jeunes qui viennent pour des temporalités très différentes.
Et de quelle nationalité ? Là, on a vu, il y en avait énormément sur ce stage-là. Je ne sais pas si c'est toujours pareil.
C'est les plus gros projets qu'on accueille pour une vingtaine de jeunes. Mais du coup, les nationalités, ça va de l'Europe à l'international, parce que du coup, le réseau d'entraide volontaire fait partie d'un mouvement national qui s'appelle Solidarité Jeunesse, qui fait partie d'un mouvement international via l'Alliance et le... Ah, j'ai peur d'écorcher le mot, mais le CVI2S, quelque chose comme ça.
D'accord.
Alors, c'est un peu dyslexique.
Ouais, les acronymes, c'est toujours...
C'est toujours compliqué. C'était ma question d'après. Du coup, vous fonctionnez en réseau?
Alors, ça s'est construit comme ça parce que historiquement, du coup, c'est un mouvement qui émane de après la Première Guerre mondiale, au moment où s'est posée la question de reconstruire la France, entre guillemets, et donc d'utiliser les supports de chantier de jeunes bénévoles pour participer et aussi pour construire la paix de demain, avec du coup la participation de jeunes venus de l'international. Et donc il fallait faire réseau, et donc ces deux réseaux internationaux se sont créés, et aujourd'hui encore on en fait partie. Ça évolue, puisque aujourd'hui on est sur des projets donc avec Erasmus+, où les partenaires adhèrent également, et donc on se communique les projets mutuellement.
Combien de projets à l'année? Tu m'as dit combien de jeunes, mais vous êtes sur combien de projets
Mais du coup, les projets européens comme ça à très large échelle, on en a 2 pour l'instant, mais du coup ça va augmenter l'année prochaine, on passera à 3. Parce que c'est sur des programmes de 5 ans, du coup jusqu'à 2027, on a le programme qui est déjà décidé. Pour nous, on a établi qu'à partir de 2026, on était sur 3 projets d'échange de jeunes, donc projets européens. Et ensuite, pour les chantiers, ça s'équilibre, c'est en fonction des chantiers qu'on arrive à trouver avec des communes extérieures, donc ça va de 5 à 7, quoi.
Uniquement sur l'été ou sur d'autres périodes aussi?
Malheureusement, se pose à chaque fois la question de l'hébergement. et des activités qui sont souvent extérieures. Donc avec le territoire sur lequel on est vite limité par la température. Mais bon, l'idée, ce serait quand même d'avoir une saison assez étalée à l'année. Et voilà, on est
bloqué. Et puis malheureusement, la vétusté aussi des locaux dans lesquels vous êtes, parce que c'est compliqué. Il faut bien s'imaginer ce bâtiment des années 50, etc. Enfin, faut voir le truc, c'est un peu...
Qui n'a jamais été construit pour fonctionner l'hiver. Ouais. Donc on n'a aucune isolation. Et donc, comme tu dis, les années 50, il y a des choses qui commencent un peu à s'écrouler notamment tout ce qui est toiture, etc. Donc c'est vrai que ça, ça...
Il faut faire un chantier isolation.
Hein ben, tout simplement.
Moi, en plus, toi, tu peux aider dans l'isolation. T'es,
ouais, carrément. Ouais, moi, dans l'isolation, ouais, je suis isolé. Ouais.
C'est ton hobby. C'est pas ton hobby, l'isolation.
Là, si on me demande un peu d'enduire en chaud, moi, ça peut le faire. Mais ça coûte cher.
Vous êtes combien de salariés, du coup? Parce que tu nous as parlé de la gouvernance, le conseil d'administration, mais après, à travailler, vous?
Du coup, là, on va devenir, à partir de l'automne, 2 salariés permanents à l'année. Et on embauche une personne pour tout ce qui est partie technique, voilà, de mai à octobre, mai à septembre. Et ensuite, au courant de l'année, en fonction des projets, des besoins, on embauche des animateurs par-ci, par-là.
Comment on devient volontaire ?
Le volontariat, je pense que c'est pas énormément soutenu par les politiques publiques et donc beaucoup moins connu, par exemple, que le service civique. Alors qu'en fait, volontaire, ça revient au même, parce que c'est une question de valeur citoyenne, le volontariat. Ça touche au bénévolat, mais en même temps, il y a un dédommagement. Les jeunes reçoivent un peu d'argent de poche, les frais de logement et de nourriture sont pris en charge, les frais de transport. Mais voilà, être volontaire, du coup, ça veut dire aussi être attaché à une structure qui soutient le volontariat et qui accompagne à faire un volontariat.
Mais les jeunes de Lozère, là, c'est ça que j'avais pas compris, pourraient participer à ce genre de programme, hein.
Oui, bah, du coup, en faisant partie de ces réseaux internationaux, nous, on est structure d'accueil, mais on est aussi structure d'aide à l'envoi. Donc des jeunes de Lozère pourraient très bien venir jusqu'à nous, jusqu'au rêve, et dire « j'aimerais faire un volontariat à l'international » et nous les accompagner à partir dans un pays qu'ils souhaitent. L'année dernière, par exemple, on avait un jeune en alternance au rêve, et il a découvert le volontariat via son alternance. Et donc, cette année, il est parti en volontariat, en Slovaquie.
Donc, ils partent là, pour le coup, 6 mois.
Le volontariat, ça va de une semaine à un an.
Très bien. Jeune, toi qui nous écoutes, franchement, fonce, parce que c'est quand même une opportunité extraordinaire.
Complètement. Et après, de se fondre dans un groupe, il est question de dynamique collective, finalement, dans tous les projets que vous proposez.
Oui.
C'est essentiel.
Oui, ben nous, c'est le parti pris qu'on a, du coup, d'utiliser la vie collective comme un vecteur de valeur et d'apprentissage. Donc, on va vraiment mettre au cœur le jeune en volontariat ou les groupes de volontaires sur le fait d'être actif et d'être acteur du vivre ensemble, de pouvoir choisir la dynamique, la prise de décision, le rythme, les activités. Et ça, du coup, on s'en rend compte sur tous les projets, tous les ans, que ça s'apprend.
Ah oui.
Oui. Alors, je voulais terminer cette interview en te parlant des valeurs que vous souhaitez véhiculer. Tu as un peu répondu, toutes les valeurs de l'EducPop, bien entendu, ces valeurs de dimension citoyenne, collective. Il y a aussi un aspect de lutte contre l'exclusion que vous essayez de mettre en place.
Oui. Grâce à cette antenne parisienne, on a notamment des personnes qui sont connectées à des structures un peu plus éloignées du volontariat ou qui ne connaîtraient pas ces dispositifs-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser et communiquer sur ces dispositifs à tout jeune qui aurait envie de connaître autre chose, de vivre autrement, une manière d'apprendre à faire société. Et donc, notre objectif, c'est vraiment, en effet, de lutter contre les exclusions et donc d'aller au contact, de nous entourer de partenaires qui sont en lien avec des jeunes qu'on aurait plus de difficultés à toucher.
Tu peux nous donner un contact pour terminer, pour les gens qui aimeraient contacter le rêve ?
Oui, alors je peux donner mon numéro de téléphone du rêve. Donc, c'est le 06 48 13 65 73. Et une adresse mail, donc c'est Solidarité Jeunesse. Les deux mots sont attachés au pluriel, puisqu'il y a plusieurs solidarités et plusieurs jeunesses. .rev pour réseau d'entraide volontaire, @gmail.com.
Allez, il nous reste 10 minutes pour emballer le matériel et pour laisser place au repas international, Ben.
Ceci dit, on met tous les liens et tous les numéros sur nos sites respectifs.
Ça sera plus simple, oui.
Voilà, je tenais encore à remercier tous nos invités, Stéphane Morin, Héloïse Pantel, Cyril Janmit et toutes les personnes qui ont accepté de répondre à notre micro-trotteur. Merci beaucoup à toi Léa, à Camille, à tous les animateurs et animatrices qui nous ont aidés cette semaine. On fait un petit coucou à Léo. Oui, ton groupe a été... voilà, il leur manquait un générique, mais ça, c'est ton groupe. Hein.
Oui, c'est son groupe.
C'est son groupe. Hein.
Nous, c'était parfait. Voilà,
nous, c'était absolument génial. Tous les groupes étaient parfaits, tout le monde était parfait. On va faire un tout petit mot d'excuse aussi auprès de l'équipe du Temple du Pont de Montvert pour leur dire que, déjà pour les remercier, il y a eu un petit problème de communication entre toutes les structures, ce qui arrive, mais on les embrasse et on y est, donc voilà. Et sachez que à partir de maintenant, vous pouvez venir participer au repas international et parler anglais et français. Il y aura des traducteurs, des traductrices, vous inquiétez pas, et passez un excellent moment. Ludo, c'était notre dernière à deux. Et voilà.
Absolument, ça y est.
Bon débarras
libéré.
On peut le cocher. Non, merci beaucoup à toi.
Peut-être je viendrai quand même au festival de la soupe.
Allez, on verra bien.
Ce sera où il y a de la soupe.
Ça me plaît. Mon dernier plateau le 24 octobre. En attendant, venez manger, faire du vin et du boucan. Ça se passe au temple du Pont de Montvert. Et restez bien à l'écoute des radios associatives. 48 FM, il a trop de fréquences. Radio Barthas, c'est sur le 107 FM. À très vite. Ciao.
Bye bye.